Nous allons ouvrir nos Bibles et prendre Apocalypse 14, versets 6 à 13. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer, et les sources d'eau. » Et un autre, un second ange, suivit, en disant, « elle est tombée, Babylone la grande, qui a éprouvé toutes les nations qui vint de la fureur de son pudicité. » Excusez-moi. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges, devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Amen.
Voilà, je voudrais vous dire que pour cette semaine de prière que l'Église vient de vivre avec l'Église de Damari, Kerichi a été en charge de toute la programmation, un travail énorme sous sa responsabilité. Et aujourd'hui, il est là encore ce matin pour nous encourager, pour nous édifier. C'est lui qui est chargé de cette mission d'édification. C'est sa première, on va dire. Et bien sûr, il l'a préparée et le Seigneur est avec lui. Mais je voudrais que nous puissions l'encourager, non pas que ce soit la dernière, mais qu'il y ait d'autres sabbats qui soient là parmi nous. C'est aussi une façon de reconnaître la valeur spirituelle des jeunes et les faire et de les assister dans leur avancée au sein de l'Église. Merci.
Bonjour à tous. Alors, vous avez entendu le texte de tout à l'heure, Apocalypse chapitre 14, versets 3 à 6. Alors, c'est un texte que vous connaissez tous, a priori. Alors, je voudrais savoir, qui ici a déjà entendu parler du message des trois anges ? Vous pouvez vous lever les mains pour ceux qui le connaissent déjà. D'accord. Je constate qu'effectivement, il y a certaines personnes qui ne le connaissent pas, et pourtant, ce message, il est très important pour les adventistes. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les logos de l'Église adventiste. Souvent, on a des logos dans lesquels les trois anges sont représentés. Et ça montre à quel point, en fait, ce message est particulièrement important pour nous. Alors, quand on lit Apocalypse chapitre 14, versets 3 à 6, a priori, quand on lit le message, il fait peur. On est d'accord ? Craignez l'Éternel et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Elle est tombée, Babylone la grande. Et tous ceux qui adorent la bête et son image sont détruits. Ça fait peur comme message. Et pourtant, si on lit bien, si on commence par le commencement de l'entrée des anges, on voit que le premier ange, il vient avec un évangile éternel. Un évangile, vous le savez tous, c'est une bonne nouvelle. En d'autres termes, quand on lit le message des trois anges, ce qu'on doit avoir dedans, c'est une bonne nouvelle et non pas l'annonce d'une catastrophe imminente ou de la fin de quelque chose. C'est une bonne nouvelle. Il faut toujours se souvenir de ça. À partir de là, on peut commencer à étudier ce texte avec le premier ange. Le premier ange va dire « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. » Alors, craignez Dieu. Cette première phrase, craindre Dieu, donne une notion de peur. Je ne sais pas si vous voyez, quand on dit craindre quelqu'un, c'est vraiment on a peur de quelqu'un, on a peur de se faire gronder, de se faire punir, de se faire taper. Alors que dans la Bible, la notion de crainte, c'est pas vraiment ça. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Deutéronome chapitre 6, verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Quand on lit ce texte, en fait, il y a une notion qui est importante. Là-dedans, on voit qu'il y a écrit que tu craindras l'Éternel en observant sa loi. Tu craindras l'Éternel en observant sa loi. Retenez bien ça. Quand on lit ce texte, c'est en observant la loi qu'on craint l'Éternel. Dans le sens où ce n'est pas parce qu'on a peur de Dieu qu'on obéit à sa loi. C'est parce qu'on obéit à sa loi qu'on finit par craindre l'Éternel, qu'on finit par l'aimer et par le respecter. Il y a une forte notion de respect dedans. C'est-à-dire que quand on écoute la loi de Dieu, on voit qu'il y a la notion de ne pas faire du mal à son prochain, dans tous les sens du terme. Il y a aussi la notion de respecter le Dieu qui a créé le ciel, la terre et la mer. Et à partir de là, on voit que ces lois ont été faites pour le bien de l'homme. Et parce qu'on se rend compte de ce genre de choses-là, on comprend que Dieu est un Dieu bon, on le craint et on le respecte pour ce qu'il est. Si on continue au verset 5, il y a aussi écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et là, effectivement, la notion de crainte qu'on connaît habituellement ne colle pas, parce qu'un véritable amour ne connaît pas la peur. Il connaît le respect, il connaît l'espoir. On peut lire dans 1 Corinthiens 13 les caractéristiques de l'amour. Vous les connaissez. Alors la question est, comment devons-nous vivre cette crainte pour qu'on puisse aimer et respecter notre Dieu? On peut voir ça dans Psaume au chapitre 34, verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. En fait, ce verset illustre vraiment la vraie nature de la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que, déjà, il y a une relation de réciprocité. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Ça veut dire que Dieu a une attention toute particulière envers ceux qui craignent leur Dieu. Ce n'est pas qu'il ne fait pas attention à ceux qui ne les craignent pas, parce que la Bible dit bien que le soleil brille sur les bons comme sur les méchants. Mais c'est pour dire que Dieu a une attention toute particulière sur ceux qui le craignent. Et ensuite, on voit que ceux qui craignent Dieu n'ont pas peur d'être punis. Au contraire, ils espèrent en sa bonté. C'est une notion importante. Et effectivement, on peut voir au psaume 34, le chant tout particulier, dans lequel il y a écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donnez-lui gloire. Alors, donner gloire à Dieu, c'est une condition importante pour notre salut. Pour illustrer ça, je peux vous faire lire Matthieu, chapitre 21, versets 18 et 19. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en rapprocha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Alors, le personnage qui dit ça, c'est pas cité dans le verset 1. Son nom n'est pas dit, mais c'est Jésus. C'est un rappel. Ça semble logique, donc je le rappelle quand même, au cas où ce ne serait pas si logique que ça. Alors, donner gloire à Dieu, c'est remercier tout d'abord Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Lui rendre gloire, c'est ça. Mais c'est aussi, surtout, porter du fruit. J'ai utilisé l'illustration du figuier parce que quand on regarde ce figuier qui est cité dans la Bible, on voit que c'est un figuier qui a plein de feuilles. Un arbre qui a plein de feuilles, on le sait, c'est un arbre en bonne santé. C'est un arbre qui rayonne, c'est un bel arbre. Qui ne demanderait pas un arbre qui a des feuilles? Tout le monde. Mais là, c'est pareil. On peut porter des feuilles, c'est une bonne chose. Mais ce que Dieu demande à l'arbre, c'est de porter des fruits. Si on lit psaume 1er, on voit que celui qui craint Dieu, c'est celui qui est comparable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il a un feuillage particulièrement beau, et surtout, il donne du fruit en sa saison. Là, c'est pareil. Donner gloire, c'est porter du fruit, au-delà de porter des feuillages. Il aurait mieux valu pour ce figuier, justement, d'avoir moins de feuilles et d'avoir du fruit. Dans ce cas-là, il n'aurait pas été séché. L'heure de son jugement est venue. Là, on commence à aborder la partie qui fait un peu peur. Alors, la notion du jugement, c'est un terme qui fait assez peur. À première vue, le jugement, on voit un tribunal, on voit l'accusé, on voit une condamnation. On voit assez de scènes comme ça dans la vie pour finalement avoir peur du jugement. Seulement, je vous invite à ouvrir la Bible dans Malachie chapitre 3, versets 1 à 6. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on éprouve l'or et l'argent. Et ils les présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme aux années d'autrefois. Je me rapprocherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. C'est un texte un peu long, il y a beaucoup de choses à en tirer, mais c'est ça le jugement. Quand on lit ce texte, on voit une chose, c'est que dans le jugement, Jésus intercède en faveur des justes. Il va dire, je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Après, il y a une liste de personnes contre qui Jésus va s'opposer au niveau du témoignage. Mais au final, Jésus va témoigner en faveur des justes durant le jugement. Et par-dessus le marché, il y a écrit qu'il les purifiera comme il purifie l'or et l'argent. Ça veut dire qu'il va nettoyer le pécheur, le juste de tous les péchés, de tout son passé. On peut continuer au Malachie chapitre 3, versets 13 à 18. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ici encore, on a une illustration d'une autre facette du jugement. Non seulement le jugement permet de purifier le juste, mais surtout, on voit ici que Dieu rétablit les choses. Dans ce que je viens de lire, on voit que le juste dit « les méchants prospèrent ». À quoi ça m'a servi de marcher en suivant Dieu si les méchants prospèrent ? À partir de là, Dieu va dire qu'il aura compassion de son fils, de ses enfants, comme un père a compassion d'un fils qui le sert. Et justement, Dieu va rétablir l'équité. Il va rendre justice à celui qui l'a suivi et il va remettre le méchant à sa place, là où il doit être. Donc finalement, c'est aussi une bonne nouvelle, dans le sens où celui qui suit Dieu, celui qui le garde, celui qui suit les commandements, eh bien, Dieu le sauve, Dieu le juge et Dieu le libère de son statut de pécheur. Et à l'issue de ce jugement, on pourra dire que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Alors, ça paraît assez simple ici, mais la question est, pourquoi est-ce qu'on doit adorer Dieu ? La réponse se trouve même dans ce texte, celui qui a fait la terre, la mer, les cieux et les sources d'eau. On doit adorer Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. C'est-à-dire que dans ce texte, on voit que c'est Dieu qui a tout fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu en dessous de Dieu et il n'y a pas de Dieu au-dessus de Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et parce qu'il a tout créé, nous devons le remercier et l'adorer pour ça. Ça paraît simple, comme ça, mais ça mérite réflexion peut-être, une réflexion plus approfondie. En tout cas, la bonne nouvelle annoncée par le premier ange va dire « Adorez Dieu, parce que le jugement est venu. Et parce que le jugement est venu, ceux qui adorent Dieu, ceux qui craignent Dieu, seront libérés et justifiés. » Ensuite, le deuxième ange. Elle est tombée, Babylone la Grande. En fait, c'est un écho à Ésaïe, chapitre 21, verset 9. Alors, Babylone, c'est quoi ? Pour comprendre Babylone, en fait, il faut voir dans l'Ancien Testament, voir un peu dans le chapitre 5 de Daniel, dans lequel on voit la chute de la ville de Babylone, la vraie ville. Dans ce chapitre, il y a un roi qui s'appelle Belshazzar. C'est le roi de Babylone. C'est le fils ou le petit-fils de l'ancien roi qui était avec Daniel et qui a connu Dieu. Belshazzar a eu le privilège de voir cet enseignement de Dieu, de voir comment Dieu a travaillé sur son père. Et pourtant, un jour, Belshazzar va organiser un grand festin. Un festin, les rois, ils en font souvent. Ça, c'est normal. Mais seulement, ce festin a quelque chose de particulier. C'est que dans le chapitre 5, Belshazzar va utiliser les ustensiles de Dieu. C'est-à-dire que dans le tabernacle, dans le temple de Jérusalem, il y avait des objets spéciaux qui servaient et qui étaient consacrés uniquement à Dieu. Et ce roi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser ces objets pour faire la fête. Et à partir de ce moment, ce qui se passe, c'est que une main apparaît et une main qui condamne Belshazzar. Ce qui a causé la chute de Belshazzar, c'est qu'il a bafoué l'honneur de Dieu. Il a utilisé des choses qui étaient que pour Dieu. Il les a utilisées à son avantage personnel. Il les a utilisées pour adorer aussi des faux dieux. En conséquence, parce qu'il a bafoué Dieu, Babylone est tombée le soir même. Et il n'y a plus de futur pour Babylone. Il y a eu le roi Darius qui a dirigé, qui a libéré Israël, mais Belshazzar est tombé, l'ancienne Babylone est tombée. Elle est tombée entre les Mèdes et les Perses. Et en fait, la Babylone qui est dans Apocalypse représente un système qui s'oppose à Dieu de la même manière que Belshazzar, l'ancienne Babylone, s'est opposée à Dieu. Cette Babylone-là connaît Dieu. Elle a reçu l'enseignement de Dieu comme l'ancienne Babylone a reçu l'enseignement de Dieu. Et de la même manière, elle va bafouer l'honneur de Dieu et elle va faire boire aux personnes une croyance, des doctrines, des connaissances qui vont à l'encontre de Dieu. Elle va bafouer jusqu'à espérer changer le temps et la loi. Il ne faut pas se tromper, cette Babylone-là est déjà présente dans notre monde aujourd'hui. Alors regardez, observez. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà qui est cette Babylone. Quant à ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite vraiment à chercher, à poser la question et à prier pour le savoir. Mais l'annonce du deuxième ange, c'est une bonne nouvelle avant tout. Une bonne nouvelle parce qu'elle promet une chose, que Babylone, celui qui bafoue Dieu, va tomber. Et qu'en conséquence, justement, les justes seront sauvés, libérés de la dictature de Babylone. Ensuite, on passe au troisième ange. Le troisième ange, il va lister les conséquences, les actes de chacun. Le premier ange va dire « Le jugement est en cours ». Le deuxième ange va dire « Babylone est tombée ». Le troisième ange va dire « Maintenant que vous savez tout ça, si quelqu'un adore la bête et son image, eh bien vous serez perdu. » C'est un avertissement en fait. C'est pas tellement l'annonce d'une condamnation, le message du troisième ange. Le message du troisième ange donne juste un avertissement à chacun d'entre nous. Parce que Babylone est déjà tombée, ou du moins elle tombera, c'est une question de temps, c'est une prophétie. Mais quant à nous, on a chacun notre choix. Soit on suit Babylone, soit on suit Dieu. Le choix s'offre à nous. Et l'ange dit, sachez que si vous suivez Babylone, rien de bon n'arrivera pour vous. Il y avait aussi la notion du feu éternel dans ce verset. Alors le feu éternel, a priori, c'est un terme qui fait assez peur parce que avec le feu éternel, il est rajouté que ce feu brûlera au siècle des siècles. Et donc, c'est vrai que ça fait un peu peur pour ceux qui lisent comme ça littéralement, parce qu'on dit que les méchants n'auront de repos ni jour ni nuit. Mais si on lit, c'est Ésaïe 33, versets 8 à 10. On va directement lire le verset 10 et 11. « Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, je serai exalté. Maintenant je serai élevé. » Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûleront dans le feu. On peut aussi voir dans Jude au verset 7, on dit que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple en subissant la peine d'un feu éternel. Alors je vous pose la question. Est-ce que Sodome et Gomorre brûlent encore aujourd'hui? On est d'accord, elles ne brûlent plus. En fait, l'idée du feu éternel, c'est pour dire que la sanction est définitive, que celui qui a été méchant sera brûlé et détruit irrémédiablement. Que ce méchant-là ne réapparaîtra plus jamais. Maintenant, l'ange parle aussi des saints. Il va dire que les saints, en fait, ce sont des personnes qui sont sanctifiées, qui sont mises à part, parce qu'ils ont persévéré, parce qu'ils ont gardé la foi en Dieu, parce qu'ils ont suivi les commandements. Et à partir de là, les œuvres les ont suivies. Les saints n'ont pas peur du jugement. Si vous voyez bien, ils ont la foi en Dieu. Ils ont accepté Jésus comme sauveur. Donc, ils savent que lors du jugement, Jésus va les couvrir de sa propre justice. En conséquence, ils espèrent dans le jugement. Ils n'ont pas peur, mais ils espèrent dans le jugement. Alors, il y a la notion de l'œuvre qui est citée ici. On peut voir dans Jacques, au chapitre 2, verset 14 et verset 20, qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le fait qu'on soit sauvé par la foi, d'une part les œuvres. Souvent, il y a un débat à ce niveau-là. Est-ce qu'on est sauvé par la foi? Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? À ce débat-là, Jacques va couper court. Il va dire, ok, tu as la foi, mais où sont tes œuvres? En d'autres termes, on est sauvé par la foi. Mais parce qu'on est sauvé par la foi, on suit les commandements des dieux et les œuvres suivent naturellement. C'est pas facile tous les jours justement de faire ça, mais il faut persévérer dans ce domaine. C'est pour ça qu'on dit la persévérance des saints. La grâce, c'est pas une grâce bon marché où on dit juste Dieu nous sauve par la grâce et puis voilà, c'est fini, on est tranquille. Non. Parce qu'on est un témoignage, on est un ambassadeur de Dieu. À celui qui ne connaît pas Dieu, on doit témoigner que Dieu est notre sauveur, que Dieu est bon. Et quand la parole ne passe pas, ce sont les actes qui passent. Avec toujours évidemment l'aide du Saint-Esprit. Alors pour les jeunes, pour les moins jeunes aussi, vous connaissez maintenant le message des trois anges. Il faut réfléchir beaucoup plus loin, chercher plus profondément pour le comprendre vraiment. Parce que ce message, c'est l'un des derniers messages, voire le dernier, adressé au monde. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Alors je vous invite vraiment à étudier ce message, à partager ce message. Parce que si vous ne le faites pas, qui d'autre le fera? Réfléchissez-y. Parce que Jésus nous a appelés à faire appel aux autres, enfin, à évangéliser et à faire appel au Saint-Esprit pour nous aider. Cherchez dans la Bible, cherchez dans la parole. Parce que, en toute franchise, on connaît, mais on ne connaît pas. C'est-à-dire que je connaissais les messages des trois anges. On m'en avait parlé quand j'étais petit. Et pourtant, quand est venu le jour où je devais l'écrire, là, je peux vous dire que ça a été blanc. Là, c'est pareil. Cherchez, apprenez, expérimentez à travers l'exercice de l'évangélisation aussi. Merci à vous.